Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour chers amis auditeurs, ravis de vous retrouver en ce dimanche 10 janvier 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. Le projet de développement de Chobahar est en plein essor. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Madame, Monsieur, rebonjour, ravi de vous retrouver. À la une de ce journal, le retour des États-Unis au JCPOA, l'accord nucléaire iranien, n'importe pas pour l'Iran. Si les sanctions ne sont pas levées, déclaration ce matin du président du Parlement iranien. Un enfant syrien a été tué et sa mère blessée lors d'un bombardement américain visant une campagne au nord de Deir ez-Zor. Et puis, Donald Trump pourrait se retrouver dès lundi sous le coup d'une seconde procédure de destitution. C'était les principaux titres que nous allons développer tout de suite dans ce journal. Restez avec nous. Le président du Parlement iranien a réitéré, je vous le disais en titre, sur le fait que Téhéran respectera ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015 si les autres parties respectent leur part du pacte. Mohammad Borrell Rolibov dit que l'accord nucléaire de l'Iran avec les puissances mondiales n'est pas un document sacré. Il dit que l'accord visait à lever les sanctions contre l'Iran et que ce qui compte maintenant pour le pays, c'est la suppression pratique de toutes les restrictions imposées malgré le pacte multilatéral. Le très haut parlementaire a déclaré que l'Iran doit avoir cette possibilité de vendre son pétrole, de faire du commerce avec le monde et d'avoir accès au système bancaire mondial. Le président américain sortant, Donald Trump, a quitté le pacte multilatéral en 2018 et a réimposé illégalement les sanctions contre l'Iran. Cependant, le président élu américain Joe Biden a promis de revenir sur l'accord. Production du vaccin anti-Covid-19, alliance stratégique irano-cubaine. Le chef du Centre d'information et de relations publiques du ministère iranien de la Santé et de l'Éducation médicale, Kyanush Dharampour, republiant samedi sur sa page Twitter les déclarations du chef du groupe de réflexion pour le dialogue interaméricain, Michael Hershefter, a mis l'accent sur l'alliance géopolitique irano-cubaine dans la production du vaccin anti-Covid-19. Kyanush Dharampour a republié samedi 9 janvier 2021 sur sa page Twitter une partie du discours de Michael Schifter, le président du think tank Dialogue interaméricain basé à Washington. Il n'est pas surprenant si Cuba et l'Iran développent conjointement le vaccin Covid-19. Les deux gouvernements sont soumis à de sévères sanctions américaines qui ont limité toute possibilité de production et d'accès au vaccin. Il s'agit d'une union géopolitique et pragmatique, peut-on lire sur la page Twitter du Dr Dharampour, citant Michael Al-Shifter. L'armée de terre iranienne organise un grand exercice militaire. L'armée de terre organisera un exercice dans les régions du sud-est du pays dans un proche avenir. Cet exercice se déroulera avec le soutien d'autres forces et en utilisant tout l'équipement militaire, a déclaré le commandant de l'armée de terre. Cet exercice est conforme aux ordres du guide suprême de la révolution islamique qui nous a ordonné de prendre la menace ennemie au sérieux et agir avec diligence, a ajouté le général de brigade Kiumash Heydari. Ces exercices ont pour objectif de nous préparer au combat et maintenir et améliorer la capacité de défense des unités opérant de l'armée de terre. Ils sont conçus pour mener des combats asymétriques basés sur notre doctrine opérationnelle et se tiendra dans les régions du sud-est d'Iran et dans diverses autres régions frontalières iraniennes. La sécurité des frontières du pays est notre ligne rouge. Les forces terrestres sont stationnées de toutes leurs forces sur les frontières est, sud-est, ouest, sud-ouest et nord-ouest et défendent l'entité sainte de la République islamique d'Iran avec pouvoir, a précisé le commandant de l'armée de terre. Dans l'actualité régionale, un enfant syrien a été tué et sa mère blessée lors d'un bombardement américain visant une campagne au nord de Deir ez-Zor. Les médias syriens affirment que les forces américaines déployées dans la région ont mené une attaque au mortier sur le village d'Al-Azba. Washington a installé quelques centaines de soldats en Syrie sous prétexte de protéger les champs de pétrole et de gaz du pays contre les groupes terroristes. Mais les rapports sur le terrain indiquent que les États-Unis continuent de piller les ressources énergétiques du pays. Les opérations militaires de Washington dans ce pays, ravagé par la guerre, ont eu également des conséquences néfastes sur les civils. Les Israéliens ont organisé une nouvelle manifestation contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Al-Rots. Les manifestants se sont rassemblés devant la résidence de Netanyahou pour condamner sa politique et appeler à sa démission. La manifestation a eu lieu malgré l'interdiction des manifestations. Les Israéliens ont organisé des rassemblements de rue au cours des derniers mois pour protester contre la flambée du chômage, une augmentation des infections au COVID-19 et un retour des restrictions liées au coronavirus. Les accusations de corruption auxquelles le Premier ministre est confronté viennent s'ajouter aux sentiments anti-régime. Netanyahou a été jugé en mai pour corruption, fraude et abus de confiance, mais il nie tout acte répréhensible. Accident d'un Boeing en Indonésie, des restes humains et des débris retrouvés. Des plongeurs indonésiens ont repêché des restes humains, des débris et des vêtements dimanche dans la mer de Java, où un Boeing s'est abîmé en mer avec 62 personnes à bord. La police a déclaré que les équipes de recherche avaient jusqu'à présent récupéré quelques sacs contenant des restes humains ainsi que ce qui apparaît comme des morceaux de fuselage et des débris. Les opérations de recherche sont toujours en cours. Aucun détail n'a été donné à ce stade sur les causes possibles de l'accident par les autorités. Selon le ministre indonésien des Transports, l'avion de ligne a dévié de sa route avant de perdre le contact quelques minutes après le décollage. Les autorités affirment que Boeing, âgé de 26 ans, était en bon état, mais le vol a été retardé de 30 minutes en raison de fortes pluies. 62 membres d'équipage et passagers, dont 10 enfants, se trouvaient à bord de l'avion qui se dirigeait vers la ville de Pontianak. Direction l'Europe, au milieu d'une vague de la nouvelle variante COVID-19 trouvée pour la première fois en Grande-Bretagne, plusieurs villes à travers l'Europe ont imposé des restrictions plus strictes. La France a introduit un couvre-feu plus strict le soir dans la ville de Marseille après la découverte de la nouvelle variante. Les responsables disent qu'au moins 21 personnes ont été testées positives pour la nouvelle souche. Strasbourg et Dijon ont également avancé leur couvre-feu. La France a jusqu'à présent enregistré plus de 67 000 décès et plus de 2,7 millions d'infections. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne a franchi le sombre cap des 3 millions d'infections et enregistré près de 81 000 décès. L'Allemagne, qui avait étendu ses restrictions liées au coronavirus, a signalé près de 1100 décès, portant son nombre total de morts à 40 000. Le parti au pouvoir indépendantiste écossais a appelé le Premier ministre britannique Boris Johnson à payer des milliards de livres en compensation des coûts croissants et des perturbations causées par le Brexit. Le chef du Parti national écossais au Parlement britannique a déclaré que les conservateurs alliés de Johnson devaient présenter des excuses aux entreprises écossaises pour les dommages à long terme causés par le Brexit. Ian Blackfold a qualifié le Brexit d'acte inutile de vandalisme économique poussé contre la volonté de l'Écosse. Les Écossais ont voté contre le Brexit lors du référendum 2016. Les pêcheurs en Écosse et ailleurs dans le Royaume-Uni sont irrités par leur perte d'accès au marché européen en raison du renforcement de la bureaucratie causée par le Brexit. Cette situation s'est aggravée par l'incapacité de Johnson à reprendre le contrôle total des eaux de pêche après que les Britanniques ont quitté l'Union européenne le 1er janvier. Donald Trump pourrait se retrouver dès lundi sous le coup d'une seconde procédure de destitution. En premier lieu, les démocrates veulent que Trump démissionne ou que le vice-président Mike Pence invoque le 25e amendement de la Constitution américaine pour destituer le président. Si cela ne se produit pas, un certain nombre de démocrates soumettront lundi les textes nécessaires pour permettre un vote. Les législateurs américains appellent de plus en plus à destituer Donald Trump après avoir incité ses partisans à prendre d'assaut le bâtiment du Capitole mercredi. Enfin, Mike Pompeo annule les restrictions dans les contacts avec Taïwan. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a annulé samedi 9 janvier toutes les restrictions qui avaient été imposées au fil des ans aux responsables américains dans leurs contacts avec Taïwan. Il n'a pas précisé la nature des restrictions et cette annonce apparaît largement symbolique. Loi de 2018 autorisant déjà des responsables à tout niveau du gouvernement, y compris des membres de cabinet occupant des fonctions de sécurité nationale, des militaires et d'autres représentants officiels du gouvernement, à se rendre à Taïwan et à rencontrer leurs homologues taïwanais. Cette annonce, qui intervient à moins de 2 semaines de la fin du mandat du président Trump, devrait néanmoins provoquer la fureur de Pékin. Fin de ce journal, merci de votre attention. Madame, Monsieur, dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Le projet de développement de Chobahar est en plein essor. Le marché du passage frontalier de Rimdan dans le département de Dashtiari, province du Sistan et Baloutchistan, relie l'Iran au corridor Chine-Pakistan et joue un rôle important dans le développement des échanges commerciaux entre les pays, a déclaré le PDG de l'Organisation de la zone industrielle et de libre-échange de Chobahar dans un entretien avec l'IRNA. Des 82 000 hectares attribués à la nouvelle zone de libre-échange de Chobahar, 6 300 hectares de la zone frontalière de Rimdan ont été annexés à la zone libre. C'est une étendue et une zone vitale qui peut relier l'Iran au corridor économique entre la Chine et le Pakistan, CPEC. Le marché frontalier de Rimdan donnera aux commerçants et producteurs iraniens accès au marché pakistanais et fera le lien entre l'Iran et le CPEC. Après 5 ans d'efforts permanents et la ratification du plan de développement de la zone, nous en sommes arrivés à un point où les conditions préalables et nécessaires à l'activité de la zone franche sont prêtes, a indiqué Abdelrahim Kordi. Aujourd'hui, les événements à Chobahar montrent que cette ville est sur la voie du développement. Soulignant l'importance du passage frontalier commercial de Rimdan en tant que zone franche distincte de Chobahar, M. Kordi a déclaré que l'un des besoins de cette zone est l'aménagement d'un chemin de fer Chobahar-Gwadar via la frontière de Rimdan. L'aménagement du passage frontalier commercial de Rimdan s'étend dans une première phase sur 120 hectares. En raison de l'afflux des investisseurs à Chobahar, de vastes projets d'urbanisme et d'aménagement ont débuté dans la zone de libre-échange. Ils s'évaluent au total à 2 500 milliards de tomans. 1 600 milliards de tomans sont consacrés aux projets d'urbanisme qui ont plus ou moins avancé. Le reste, évalué à 937 milliards, sera exploité d'ici la fin du mandat du président actuel Hassan Rouhani. La majorité du projet est consacrée au développement du secteur industriel et touristique. Ces projets d'envergure sont une aubaine pour Chabahar qui n'attend que progrès et modernisme. Avec l'achèvement des plans nationaux, des compagnies d'acier et de pétrochimie, Chabahar deviendra le pôle industriel et économique du pays. Le développement étant désormais reconnu comme un processus multidimensionnel, M. Cordy a fait allusion aux activités de son organisation dans le sens du bien-être et de l'amélioration de la vie des habitants de Chabahar. Le développement de la zone de libre-échange apporte d'innombrables nouvelles opportunités aux habitants. Des mesures urgentes ont été prises pour améliorer l'éducation, le service de santé et autonomiser la communauté locale, a-t-il ajouté.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. L'Iran reprend l'enrichissement d'uranium à 20%. L'annonce a été faite, c'était lundi, par le porte-parole du gouvernement iranien, M. Ali Rabi. Ensuite, il y a eu des réactions du côté du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui, sur sa page Twitter, a souligné que cette reprise d'enrichissement d'uranium à 20% par l'Iran est tout à fait légale et légitime parce qu'elle repose sur la loi votée récemment par le Parlement iranien qui enjoint le gouvernement iranien de reprendre l'enrichissement d'uranium à 20% si d'autres parties signatrices de l'accord nucléaire de 2015 refusent d'honorer leurs engagements. Ensuite, il y a eu cette réaction du côté surtout du vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi qui a souligné que l'Iran a la capacité de passer même à un niveau de supérieur de 20% d'enrichissement d'uranium au cas échange. En fait, les États-Unis ont réagi, c'est tout à fait clair et évident, négativement à cette reprise d'enrichissement d'uranium à 20% par l'Iran, mais les États-Unis, en fait, ne sont absolument pas qualifiés de parler de l'accord nucléaire de 2015 parce que les Américains se sont retirés unilatéralement de cet accord nucléaire. C'était en 2018. Du côté de l'Union européenne. Le porte-parole de l'Union européenne a qualifié de regrettable cette décision de Téhéran tout en disant que l'objectif de l'Union européenne est de préserver l'accord nucléaire. Mais cette prise de position de l'Union européenne intervient à un moment où, jusqu'à présent, les trois pays européens membres de l'accord nucléaire sont restés dans un stade, si vous voulez, de parole, mais n'ont rien fait pour refuser, si vous voulez, cette politique unilatérale des États-Unis pour honorer leurs engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire. Un dernier point avant d'aller en fait vous présenter nos deux experts de cette émission. L'Iran insiste sur ce point que ces mesures prises en ce qui concerne la réduction des obligations de Téhéran sont des mesures réversibles. C'est-à-dire que l'Iran peut revenir, si vous voulez, à ses engagements initials pris dans le cadre de l'accord nucléaire si d'autres parties, si vous le membre de cet accord, en font de même. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités spécialistes des questions internationales. J'ai avec moi pour cette émission, depuis Bruxelles, un géopoliticien, analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Luc Michel. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je salue mon collègue et je salue tous vos téléspectateurs.
Merci. J'ai l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un écrivain, analyste politique et spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de M. Jacob Cohen. M. Cohen, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous et bonjour à Luc Michel.
Monsieur Cohen, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet de comment expliquez-vous de ce qui se passe actuellement entre l'Iran et d'autres pays membres de l'accord nucléaire, s'il vous plaît, de 2015.
Bon, l'Iran, disons, comme une partie de poker, l'Iran a un atout formidable pour débloquer la situation. C'est-à-dire que l'Iran est coincé parce que l'Iran a respecté les accords, elle a réduit ou elle a laissé le contrôle de son développement nucléaire aux mains de l'énergie et de l'agence internationale. Elle a respecté, d'ailleurs c'était reconnu, et donc il y a eu, on a levé les sanctions. L'Iran pouvait commercer, pouvait avoir des avoirs bancaires, etc. Et Trump a suspendu l'accord, ou a violé, ou s'est retiré de l'accord. Donc l'Iran a perdu le côté économique et commercial et financier, et s'est retrouvé tout en respectant, tout en limitant ses possibilités de développement nucléaire. Et donc, à un moment donné, l'Iran aussi voyait que l'Europe ne suivait pas vraiment. C'est-à-dire, de toutes les façons, l'Europe, il lui est impossible de reprendre totalement les relations à 100%, parce qu'il y a des sanctions à la clé, etc. Donc, l'Europe essaye, disons, de maintenir un niveau minimum de relations pour empêcher l'Iran d'entamer cet enrichissement. Et donc, nous assistons aussi au passage d'une nouvelle présidence aux États-Unis, donc éventuellement une réouverture des négociations. Et donc, l'Iran sort sa carte qui est assez importante, c'est-à-dire vis-à-vis de l'Europe, surtout de l'Occident, et dire voilà, moi, je suis prêt à jouer le jeu, mais il faut qu'on revienne, il faut qu'on prenne... il faut qu'on prenne en jeu mes intérêts financiers et économiques et qu'on revienne au statut défini par le traité.
Merci beaucoup, Jacob Cohen. Permettez-moi de faire également de cette précision que l'Iran agit actuellement dans le cadre, si vous voulez, du traité de non-prolifération nucléaire. L'Iran respecte pleinement le traité de non-prolifération nucléaire parce que l'enrichissement à 20% par l'Iran s'effectue sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, et de celle de ses inspecteurs qui sont présents et qui supervisent les activités pacifiques de l'Iran dans le domaine nucléaire. Luc Michel venait d'entendre les explications de Jacob Cohen. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Mais je partage son analyse de la situation. Nous avons une expression, un proverbe issu du Moyen-Âge qui dit qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Le cynisme américain qui quitte l'accord pour sanctionner l'Iran et qui demanderait à l'Iran de respecter celui-ci, c'est un cynisme absolu. Vous avez dans votre présentation initiale oublié quelque chose d'important. Hier, le ministère des Affaires étrangères russe, le ministre Lavrov, a déclaré que l'enrichissement d'uranium par l'Iran ne sortait pas du cadre du traité, qu'il était effectué sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique et parfaitement licite. C'est, bien entendu, l'avis d'un important garant des accords de Genève. Mais pour comprendre tout cela, il ne faut pas résumer ça à un problème entre l'administration Trump et l'Iran ou à un changement de président. En fait, la confrontation n'est pas une confrontation bilatérale Washington-Téhéran. Elle est un triangle dans lequel le troisième larron, ce sont les Israéliens. Les Israéliens, c'est eux qui, depuis le départ, prêtent à l'Iran l'accusation de rechercher la bombe atomique, c'est-à-dire d'avoir un programme nucléaire militaire, et tout simplement parce qu'ils sont obsédés par un fait, c'est de rester la seule puissance nucléaire occulte du Proche-Orient. Il faut rappeler qu'ils ont un programme militaire qui a été mis au point dans les années 60 avec l'aide de la France et des États-Unis et qui s'appelle le bouclier de l'Armageddon. Ces 200 têtes nucléaires non déclarées, sans contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et de plus, ils sont montés sur des sous-marins de proche allemands de la classe Delphin, c'est-à-dire que cet arsenal n'est pas fixe, il ne peut pas être menacé, il est sur des sous-marins qui parcourent la Méditerranée, et peut-être, on ne sait pas d'ailleurs, puisque tout cela est clandestin, c'est une menace occulte, peut-être même d'ailleurs le Golfe Persique et la mer Rouge. On voit donc les puissances occidentales, les États-Unis qui accusent l'Iran, mais qui ont doté et qui ont un allié disposant d'une arme nucléaire occulte. On voit les Européens qui ont contribué, la France en fournissant à Israël la technologie dans les années 60. Il faut arrêter les discours sur la soi-disant grande politique arabe du général de Gaulle. C'est de Gaulle qui a fourni ça. Et la seconde chose, il faut se rappeler que les Allemands qui donnent beaucoup de leçons à Téhéran, ce sont eux qui ont fourni la technologie, les missiles israéliens qui sont des missiles de croisière modifiés, émergés sur des sous-marins de poste. Tout cela, c'est sorti du cadre militaire allemand et c'est effectué avec l'élection de Berlin. Les Européens ont une position assez ambiguë, mais moi que je qualifie d'hypocrite, c'est-à-dire que dès le départ, et le bal a été lancé par le ministre Le Drian lorsqu'il est venu à Téhéran, c'est que pour véritablement redonner toute sa portée aux accords de Genève qui ont été strictement respectés par l'Iran, l'Iran devrait ajouter une condition et une négociation supplémentaire, c'est d'abandonner son programme de missiles balistiques, c'est-à-dire l'un des aspects essentiels de sa doctrine de défense nationale. On est donc dans une position hypocrite qui est une position en fait de l'OTAN, c'est-à-dire l'OTAN, les États-Unis, Israël, tout le monde évidemment, est complice comme la roue en poing. C'est cela qu'il faut retirer. Si on ne met pas en avant cet aspect des choses, on ne comprend pas toute cette querelle qui parfois, je ne vous cache pas, pour le public européen, semble parfois nébuleuse.
Déjà, Cohen, vous l'avez en fait dit tout à l'heure, du côté en fait des pays européens, il n'y avait pas eu jusqu'à présent au moins des mesures sérieuses pour permettre en fait à l'Iran de bénéficier de l'accord nucléaire et très particulièrement en fait des avantages économiques et commerciaux de cet accord. Ça, ils sont toujours en fait des positions européennes constatées ces dernières années. Les Européens ont reproché à maintes reprises, et si vous voulez, aux des États-Unis que leur retrait unilatéral de l'accord nucléaire en disant qu'il faut tout faire, tout mettre en œuvre pour en fait préserver l'accord nucléaire. Mais ces mêmes pays se sont mis du côté des Américains en disant qu'il faut élargir, si vous voulez, les discussions au rôle régional de l'Iran, aux capacités balistiques de l'Iran. Là, les Européens, en prenant une telle position, Jacob Cohen, semble-t-il, ont compliqué, si vous voulez, davantage la situation, n'est-ce pas?
Non, si il faut prendre en considération que les pays européens, enfin on parle de la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, sont des pays majeurs de l'OTAN, sont des alliés, sont dans l'Occident, c'est-à-dire que ce sont objectivement les alliés d'Israël, militairement, économiquement, financièrement et diplomatiquement, etc. Et donc, ils font semblant de jouer un jeu équilibré, mais en fait, ils ne le sont pas, et ils ne le pourraient pas, même s'ils le voulaient, les Européens ne pourraient pas reprendre, c'est-à-dire faire fi des menaces américaines de ne pas commercer avec l'Iran, parce qu'il y a des sanctions à la clé. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'unilatéralisme juridique américain, qui peut punir toutes les banques, toutes les grosses industries européennes qui iraient contre le boycott décidé par l'Amérique. Donc il y a cette épée de Damoclès que l'Europe accepte et joue le jeu. Donc, l'Europe essaye de se présenter comme un intermédiaire neutre entre l'Amérique et l'Iran, mais en fait, ce sont fondamentalement des alliés des États-Unis, ce sont fondamentalement des alliés des Israéliens, et donc ils jouent un double jeu, ou comme l'a dit mon collègue, un jeu hypocrite. Et c'est pour ça qu'ils ne pourraient pas, l'Iran ne peut pas compter vraiment sur eux.
Jacob Cohen, vous dites que voilà, il s'agit en fait d'une épée de Damoclès, si vous voulez, des États-Unis sur les Européens. Peut-on parler également d'une épée de Damoclès d'Israël sur les Européens pour expliquer une telle prise de position de la part de l'Europe?
Vous savez, cette crise, si on peut appeler ça une crise entre l'Iran et l'Occident, elle a été montée de toutes pièces depuis 20 ans par Israël. C'est depuis une vingtaine d'années que les médias israéliens, la diplomatie israélienne fait pression sur l'Occident, sur l'Amérique, tout le temps que l'Iran va avoir l'armement nucléaire, etc. Et donc, en fait, sans le pressing israélien auprès des Occidentaux, je pense que le problème ne serait pas posé. Et donc, comme Israël fait toujours marcher le mythe de l'Holocauste, on va être emporté, les comparaisons entre Ahmadinejad et Hitler, etc. Et donc, il va y avoir un nouveau génocide. Et comme l'Occident, dès qu'il y a l'antisémitisme entre en jeu, dès qu'il y a une menace même fictive sur Israël, l'Occident, il oublie sa rationalité, il se met du côté d'Israël. Donc en fait, c'est une affaire qui a été montée de toutes pièces. Et donc finalement, l'Europe s'est mise par la force des choses dans cette dynamique de pression, de chantage vis-à-vis de l'Iran.
Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec, vous êtes du même avis avec Jacob Cohen lorsqu'il dit que voilà, si de ces pays de jouent, si vous voulez, un double jeu, c'est parce qu'ils sont premièrement majoritairement membres de l'OTAN et partant de là, alliés, si vous voulez, d'Israël?
Oui, tout à fait. Il faut quand même constater une chose, c'est que en concluant les accords de Genève, on a oublié qu'il existait un bloc militaire américano-occidental et que, justement, les principaux membres de l'OTAN et alliés des États-Unis, c'est la France, c'est l'Allemagne et c'est la Grande-Bretagne. Il y a d'autre part cette histoire de l'universalité des lois américaines, mais qui aurait parfaitement pu faire l'objet d'un contre-programme de sanctions. Au contraire, dès que ça a été soulevé par les Américains, les Européens ont quitté le marché iranien, alors que ce marché était essentiel à la relance économique en Europe. Souvenez-vous de la visite de Mme Mogherini en Iran. Et secondement, non seulement ils ont soulevé comme objection à la reprise, principalement la raison pour laquelle Trump avait quitté les accords de Genève, qui était le programme balistique iranien, et la défense, l'axe de la résistance. Lorsque vous suivez les médias d'État, RFI, LCI, Arte particulièrement, qui est financé par Berlin et Paris, vous constatez une animosité permanente envers non seulement l'Iran, mais ses alliés, le gouvernement de Damas et le Hezbollah. C'est tous les jours en permanence. Les experts de ces chaînes, ce sont des monarchistes, des monarchistes iraniens, des anti-Bachar el-Assad. Il y avait encore hier un film d'espionnage sur Arte où on présentait le Hezbollah comme un mouvement terroriste d'assassins d'enfants. C'est cela qui donne le ton. On ne peut pas avoir cet angle idéologique et en même temps prétendre qu'on est un des garants neutres de l'accord de Genève. C'est ce que les Russes ont bien compris, d'ailleurs. Ils ont très bien compris par leur déclaration, en rappelant les choses, c'est-à-dire qu'il y a une légalité internationale. En fait, Moscou a ouvertement critiqué la position des autres signataires des accords de Genève. Les États-Unis de Trump, évidemment, bien entendu, ont une position insoutenable, mais les Européens ont une position qui est tout aussi insoutenable. Je vous l'ai dit, le drame, c'est que les trois garants de Genève, ce sont les principaux alliés militaires des États-Unis dans l'OTAN, pour lequel Israël est un membre de l'Alliance, et pour lequel on a dit d'Israël qu'il était le membre occulte de l'OTAN, et pour lequel Israël est un espèce de porte-avions américain au cœur du Proche-Orient.
Alors, Luc Michel, s'agissant en fait de Tel Aviv, il y avait surtout cette déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a menacé l'Iran.
Écoutez, Netanyahou mène un show depuis des années sur cette question-là. Rappelons-nous son show de l'ONU où il avait présenté des espèces de schémas idiots qui tentaient à démontrer que l'Iran était au bord de disposer de l'arme atomique. C'est ce que racontent les Israéliens depuis des années. Simplement, lorsque s'est établie l'administration Trump, ça a été la likoudisation absolue de la politique américaine. C'est d'ailleurs un dirigeant de l'AIPAC, le lobby pro-israélien, Jared Kushner, qui est le gendre de Trump, c'est lui qui a été chargé de négocier principalement ce qu'on a appelé le New Deal et qui a piloté cette politique américaine là-bas, avec en plus l'ambassadeur Friedman, qui est un sioniste exacerbé, qui porte la kippa, c'est lui notamment qui a fait établir la capitale israélienne à Jérusalem au mépris des lois internationales. Est-ce que la nouvelle administration va revenir sur les pas de l'ancienne? Il est probable. Vous savez que les réseaux Obama, Clinton, Soros, dont Joe Biden n'est qu'un des porteurs de valises, Kamala Harris, qu'on appelle Miss Soros aux États-Unis parce qu'elle doit toute sa campagne, ce sont des gens, évidemment, qui ont une autre vision et qui pensent qu'ils réussiront à contenir l'Iran par une politique internationale, par ses accords, etc. On peut supposer les voir revenir, mais les Israéliens sont derrière pour envenimer les choses. Tout le monde sait qu'en Iran, on ne discutera pas le programme balistique, on ne discutera pas la constitution de l'acte de la résistance, tout simplement parce que c'est au cœur de votre doctrine de défense nationale et que cette doctrine est légitime.
Merci beaucoup.
Il y a un exemple qui pèse sur toute cette politique, c'est la destruction de la Jamaïria de Kadhafi en 2011, par les mêmes d'ailleurs, par Obama, Clinton, etc. Et Kadhafi avait commencé en 2003 par accepter le désarmement. Il avait désamorcé ses politiques de destruction massive, il avait désamorcé la recherche, il avait même été plus loin puisque il avait livré l'état de ses recherches, etc. Et on a vu comment ça a terminé. Ça a conduit la Corée du Nord, par exemple, à inclure dans les dispositifs de commentaires de sa constitution qui fait de l'arme nucléaire coréenne un dispositif de sa défense nationale, d'inclure le cas de parler du cas de la Libye. Dans le cas de l'Iran, on a au contraire une puissance qui n'ose pas chercher l'arme atomique, malgré tout ce que racontent les Israéliens. Au contraire, l'ayatollah Khamenei a toujours précisé, pour des raisons qui sont des raisons morales, qu'il était opposé à l'arme nucléaire iranienne et que cette arme nucléaire qui repose sur une dissuasion par la terreur, que ce soit celle de la destruction massive des grandes puissances ou ce qu'on appelle la dissuasion du faible au fort, telle que la pratiquent les Français ou les Nord-Coréens, tout cela ne peut conduire qu'à l'abîme géopolitique. Les Iraniens ont toujours été clairs là-dessus. Il n'y a pas d'éléments qui conduisent à une bombe atomique. L'Agence internationale de l'énergie nucléaire a toujours contrôlé le programme. Et quand il y a eu des problèmes avec celle-ci, c'est parce que précisément, les Occidentaux avaient conduit à envenimer les choses.
Merci.
C'est ça le rapport. Simplement, Israël veut rester la seule puissance nucléaire du Proche-Orient. Elle prête aux Iraniens ce qui a été ses préoccupations à elle, c'est-à-dire la constitution d'une arme nucléaire clandestine. Et en plus, elle est effrayée par une course à l'armement nucléaire au Proche-Orient.
Merci
on sait
beaucoup.
Que si, c'est une hypothèse, si l'Iran se dotait d'une arme atomique, on sait que les Saoudiens continueraient, ils en ont les moyens, ils en ont les contacts, ça serait immédiat. Les Français leur vendraient probablement la technologie. C'est cela qui révèle la grande peur israélienne. C'est ce qui fait que cette équation de Genève, elle ne tenait pas, parce qu'il manquait le membre. On parle de clandestinité de l'arme nucléaire israélienne, mais le négociateur clandestin de Genève, c'était Israël. On disait à l'époque, c'était le ministre Fabius, d'ailleurs français, qui était le véritable représentant à la table de négociation d'Israël. Il faut souligner.
Merci beaucoup, Luc Michel. Nous sommes malheureusement arrivés en fait à la fin de notre émission. Vous faites toujours des analyses pertinentes et ça sera pour une autre émission. Merci infiniment, Luc Michel, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements.
Je vous en remercie, à bientôt.
Je vous en prie. Mes vifs remerciements vont également à Jacob Cohen, écrivain, analyste politique et spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. À peine 3 semaines après l'annonce du contrôle du ciel malien par Israël, des bombardements interviennent contre les civils. En effet, plusieurs personnes ont été tuées dans le centre du Mali. L'armée française disant avoir frappé des dizaines de terroristes alors que ce sont des villageois qui ont été pris pour cible lors d'un mariage. Dimanche après-midi, dans le centre du Mali, des avions de l'armée française ont frappé et tué un groupe de personnes, des combattants terroristes prétendument identifiés grâce à une masse de renseignements, affirme le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l'état-major des armées. Le même jour, des villageois et une association malienne ont dénoncé le bombardement aérien d'un rassemblement de civils en marge d'un mariage. C'est un mouvement qui a commencé juste au lendemain de la mort de 5 soldats français avec les frappes aériennes contre le village au Mali, mais ce n'est pas tout, puisque Barkhane, Israël, OTAN et USA semblent vouloir étendre ce mouvement au Burkina et au Niger. Au moins 6 personnes, dont 2 supplétifs et civils des forces de sécurité burkinabé, ont été tués lundi lors d'une attaque dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière malienne, a pris l'AFP mardi, citant d'un des élus locaux. Lit-on dans les informations. Des individus armés ont attaqué ce lundi le village de Lumbila, localité située à 35 km de Douahi et de Gouya, des chefs-lieux de la région du Nord, faisant 6 morts, dont 2 volontaires de défense de la patrie, a déclaré cet élu local sous le couvert de l'anonymat, faisant également état de 3 blessés. Au Niger, le bilan aurait encore plus lourd. Au moins 100 personnes ont été tuées dans une attaque terroriste de samedi 2 janvier dans l'ouest du pays.
une attaque que les médias mainstream attribuent au contexte électoral. Sans oser revendiquer ces frappes, c'est bien sûr l'axe US-Israël-OTAN qui les a menés. Ce n'est pas n'importe où, c'est dans la région des trois frontières où la population s'oppose ouvertement et fermement à la présence des forces occupantes et que ces attaques se sont produites. En effet, la plus grande partie de la résistance populaire contre la présence étrangère se fait au Mali et au Burkina Faso. Et pour empêcher que cette vague d'indignation ne s'étende au Niger, où les États-Unis disposent de leur plus grande base, des attaques sont perpétrées contre les civils afin de débiliser l'armée pour renforcer la présence militaire occidentale. Alors que tous les indices sont en défaveur d'une présence française au Sahel, celle-ci remue des ciels et terres afin de justifier l'extension de ses opérations au Sahel. Et quoi de mieux donc des attaques présumées terroristes contre eux de ces régions et de mettre en question la capacité des gouvernements et des armées nationales. Et ceci s'ajoute à des revendications des pacotis qui justifient la prolongation de la présence US OTAN Israël et aussi l'extension des opérations. Mais durant toutes ces années, le peuple malien, tout comme le peuple nigérien et Burkinabé a prouvé que c'est lui qui décidera de son sort et non une puissance colonialiste. Côte d'Ivoire, l'opposition annonce sa participation aux législatives alors qu'ils avaient boycotté la présidentielle et appelé à la désobéissance civile. Les membres de l'opposition ivoirienne ont annoncé qu'ils allaient participer aux législatives prévues au mois de mars. Pour s'assurer de remporter le plus de sièges possible au Parlement, les différents partis ont adopté la stratégie de l'unité. Nous n'y allons pas pour faire la figuration. Nous allons pour remporter le Parlement et nous le remporterons, je crois qu'il faut être certain. Malgré les difficultés, nous allons y aller et remporter ces élections parce que le débat se situe à ce niveau, au niveau du Parlement. Ce débat se situe au niveau de la représentation de la nation et nous n'avons pas le droit d'être absents, a déclaré le président de l'EDS, un parti pro-Bagbo. Les partis ont jusqu'au 20 janvier pour déposer leur candidature pour ce scrutin qui aura lieu le 6 mars prochain. L'état d'urgence de nouveau prolongé de 3 mois dans l'est et l'ouest du Niger. Le gouvernement nigérien a décidé d'une nouvelle prorogation de 3 mois à compter de samedi prochain de l'état d'urgence dans la région de Diffa, située dans le sud-est du pays, proche du Nigeria, et dans certains départements des régions de Tillaberi et de Taouar, proche des frontières avec le Mali et le Burkina Faso. La situation sécuritaire demeurant toujours fragile dans ces localités, cette décision est prise pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et rétablir l'ordre public dans ces parties du Niger. C'est ainsi que dans l'est du pays, la mesure couvre l'ensemble de la région de Diffa, tandis que dans la partie occidentale du pays, elle concerne précisément les départements de Oualam, Ayourou, Bankila, Red, Abalar, et également ceux de Tassara et de Tiliart. Toutes ces régions subissent depuis quelques années des attaques à répétition de groupes terroristes, notamment celles venant de Boko Haram dans certaines localités de Diffa. L'accord portant récréation de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAR, a le potentiel de rendre les économies africaines plus fortes face aux futurs chocs mondiaux tels que l'actuelle pandémie de COVID-19, a déclaré un éminent expert en politique commercial des Nations Unies. David Luc, coordinateur du Centre de politique commerciale d'Afrique au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a indiqué que le renforcement du commerce intra-africain permettrait d'amortir les futurs chocs mondiaux tels que la pandémie de COVID-19. La pandémie a en effet clairement exposé la vulnérabilité des pays africains en termes de dépendance vis-à-vis de leurs partenaires commerciaux mondiaux. Une mise en œuvre réussie de la ZLECA permettra de soutenir le développement de chaînes de valeur régionales compétitives et résilientes et d'accroître l'industrialisation nationale et régionale, y compris dans le secteur de la santé. Par conséquent, la ZLECA pourra aider les économies africaines à se renforcer en prévision des futurs chocs mondiaux, a-t-il souligné encore. Selon une récente étude réalisée par la CEA, les pays africains importent en effet 94% de leurs produits médicaux et pharmaceutiques depuis l'extérieur du continent, soulignant que la pandémie de COVID-19 avait également mis en évidence l'importance des technologies numériques en tant que moteur du commerce intra-africain et de la croissance économique et globale. Le coordinateur a indiqué que le protocole de commerce électronique qui sera créé dans le cadre de la ZLECA allait sans aucun doute contribuer à faire progresser la transition numérique des économies africaines. Cette zone de libre-échange devrait permettre de stimuler le commerce intra-africain et à terme de faciliter le développement et l'industrialisation de l'Afrique. L'accord a en effet le potentiel de faire augmenter le commerce intra-africain de plus de 52% d'ici 2022. Ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.